On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, dans votre show épique, historique et en leadership. Nous allons clôturer aujourd'hui avec notre série sur les changements des mentalités, mais ne vous inquiétez pas, c'est un thème qui reviendra souvent. Nous allons voir donc aujourd'hui l'épisode 2.7 et nous allons donc approfondir encore avec la notion d'ombre, de shadow, le chouyette en ancien égyptien. Il faut bien se dire que malheureusement la prononciation n'est pas forcément la vraie, car nous, sur le chouyette en tout cas, il y a beaucoup de termes qui ont été occidentalisés, donc ce ne sont pas forcément la vraie prononciation que nous avons, mais les recherches sont toujours en cours, car nous voulons prononcer certaines choses de la manière dont les anciens Africains le faisaient. Alors, il y a la fois passée, nous avons parlé donc des 9 états de l'âme selon les anciens Égyptiens, et nous avons remarqué que c'était scientifique, car en les comparant avec ce qui se fait dans la psychanalyse, ou même dans l'étude du cerveau avec les neurologues, Caroline Leaf par exemple, nous avons remarqué que ces 9 états de la pensée égyptienne sont scientifiques et qu'on peut les retrouver dans les études modernes scientifiques sur l'âme, sur la pensée, sur le cerveau. Donc nous sommes vraiment dans la pensée africaine et dans la pensée scientifique, car la tradition africaine, c'est une aussi pensée scientifique. Nous allons donc un peu plus nous plonger dans le chouyette encore, car c'est ici que nous nous rendons compte que l'Africain l'homme en général a un sérieux problème, car ce sont des choses scientifiques qui touchent l'humain en général, mais ici nous sommes plus en train d'essayer d'établir les causes à effet par rapport à la situation de l'homme, la femme, l'être humain africain, et nous allons nous baser justement sur la science, sur ce qui est scientifique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons nous pencher encore un peu plus sur le chouyette pour clôturer en tout cas momentanément, cette série sur le changement des mentalités. Et nous allons, selon vos messages, selon votre feedback, vous nous direz, proposerez quel est le thème que nous devrions employer. Si nous devons commencer la série des Sa vie et son pouvoir, vous pouvez nous contacter à mizele48@gmail.com et vous pouvez nous donner vos propositions et nous allons préparer des articles et des interventions par rapport à cela. Donc de retour sur le chouyette, l'ombre, le côté obscur comme on dit, j'ai commencé notre show aujourd'hui avec une citation de Carl Jung, et je la reprends. Elle dit « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Oh, là j'ai l'impression que j'ai perdu déjà des gens. En entendant ça, on se dit « Oh, ça devient lugubre, ça devient obscur, mais que raconte-t-il » Tout simplement, il faut juste approcher la phrase avec beaucoup de méthode et beaucoup de sérénité. Je vais la reprendre. « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Que voulait dire Carl Jung par rapport à ça? Carl Jung, en fait, ne faisait que exprimer ou présenter le shadow, ce qu'on appelle le shadow, ce qu'on appelle l'ombre, que les anciens Égyptiens connaissaient déjà avec le concept de chouyette. Et en allant sur un site pensée.fr qui traitait sur l'ombre, on trouve ceci. On nous dit dans ce site que tout ce que nous considérons à un moment donné comme mauvais, en raison de notre éducation, et c'est mis en gras, et des normes morales de notre société devient notre ombre. Je reprends. Tout ce que nous considérons à un moment donné comme mauvais, en raison de notre éducation et des normes morales de notre société, devient notre ombre. Cependant, il n'est pas conseillé de considérer toutes ces dynamiques internes comme des expériences répréhensibles ou dangereuses. Fin de citation. C'est exactement ce que nous disions dans notre émission passée. Quand on parle d'ombre, de shadow, de chouyette, il ne faut pas se dire que c'est simplement tout ce qui regroupe ce qui est mauvais en nous, mauvais en termes de morale, c'est-à-dire tuer, voler ou tricher. Non, c'est tout ce que l'on a refoulé en nous, ce qui peut être bien, ce qui peut être même positif, mais qu'on a refoulé dans l'ombre, qui est en fait aussi une autre définition de l'inconscient. Et Carl Jung, dans son travail de psychanalyse, voulait démontrer au fait que les êtres humains devaient affronter leur ombre, leur shadow. Ici, pour être innovant, nous n'allons pas Nous allons pas nous établir avec les termes de shadow ou ombre, car ils ont cette connotation au fait du côté obscur, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est immoral. Mais nous allons mettre ça dans le contexte africain. J'appellerai l'ombre donc, à partir de maintenant, je l'appellerai la panthère noire. Et vous comprendrez pourquoi donc, et mieux dans son contexte, je vais l'appeler Kemgo. Pourquoi Kemgo? C'est parce que Kem, dans les langues africaines, c'est tout ce qui est relatif à noir. Et Ngo, c'est l'article, pardon, c'est la racine qui est relatif à la panthère, au léopard. Et vous savez que la panthère n'est que, parce que la panthère et le léopard sont des mêmes espèces. Une panthère n'est que, ils ont le même aussi stock génétique. Il n'y a pas de différence en réalité, génétiquement parlant, entre une panthère et un léopard. Les deux ont le même stock, ont le même ADN. Mais la panthère a un taux de mélanine beaucoup plus élevé. Voilà pourquoi elle se retrouve toute noire. Mais le léopard et la panthère sont la même espèce. Ils sont génétiquement les mêmes, liés. Mais la panthère, par exemple, noire, a un excès de mélanine. Et on a aussi des félins qui sont aussi albinos. Il y a par exemple, des tigres blancs, des lions blancs. Donc, il y a un déficit en mélanine chez ces espèces-là. Donc, ce que nous appelons ici Kemgo, la panthère noire, c'est l'ombre dont on parle en psychologie et le chouïette dont on parle au niveau de l'ancienne Égypte. Au niveau des anciens Égyptiens, pour corroborer ce qu'ils disaient, eux imaginaient l'ombre exactement comme un ombre. Il y a des fresques qui montrent une personne totalement noire, donc une ombre qui accompagnait aussi le défunt dans l'au-delà. Il y a donc le chouïette est représenté par une ombre. Mais il faut savoir que l'ombre aussi, tout le personnage noir est symbolique parce qu'il représente aussi la Renaissance. Et pour les anciens Égyptiens, l'ombre est ce qui accompagnait l'homme toute sa vie. Les anciens Égyptiens ont toujours considéré que l'ombre résumait ce qu'une personne représente. Pour eux, en effet, l'ombre ne quitte jamais l'homme. Et dans un pays de soleil, elle évoque, en fait, l'ombre, en fait, évoque le bien-être, le repos, le calme. Et était représentée comme un personnage tout de noir apparent. Nous savons, par exemple, que pour eux, Dieu s'appelait Kemur ou Kemuer, c'est-à-dire le grand noir. Et la couleur noire représentait symboliquement la renaissance, représentait la divinité. La couleur noire sombre ne représentait pas toujours le phénotype des Égyptiens, mais ça représentait aussi une couleur symbolique pour montrer la renaissance. Et on verra le lien avec la psychologie de Carl Jung, car Carl Jung dit qu'il faut justement faire face à l'ombre. En effet, Carl Jung dit: notre rôle dans la vie est d'accepter et d'intégrer pleinement notre ombre, que j'appelle Kemgo ou la panthère noire. Donc, notre rôle dans la vie est d'accepter et d'intégrer pleinement, ce que je dis, la panthère noire ou Kemgo ou notre ombre ou le shadow à la personnalité afin d'en prendre conscience et de travailler avec elle en y faisant face directement. La négliger, la laisser continuer dans son univers inconscient peut mettre à mal notre équilibre et la possibilité d'être heureux. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Pourquoi nous avons pris le terme de Kemgo ou de la panthère? En fait, nous l'avons aussi évoqué dans nos émissions précédentes, que le terme de la panthère, du léopard, de la racine Ngo est synonyme de la royauté. Et tout cela va très loin lorsqu'on remonte à Narmer, Nimrod, qu'on retrouve dans la Bible, où on dit que c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Donc, toutes les notions de royauté découlent de cet individu. Et par Narmer, par les mots qui sont liés à lui, car son nom aussi secrète la racine Ngo, car son nom s'écrit avec un poisson chat et une ou. Et vous savez que la ou est liée à la racine Ngo, à Congo, car le mot ou se retrouve aussi bien dans le nom de Tameri, car Mer, MR ou Mary, c'est le nom de la ou et de l'amour, aussi bien que dans le royaume Congo, la ou est le symbole de l'amour, et du travail, du rassemblement. C'est le mot Congo, donc Mary et Congo, c'est la même chose, c'est la même prononciation aussi quand on sait lire la pensée symbolique des hiéroglyphes. Donc, à partir de Narmer et tous les rois qui vont suivre, il y a la notion du roi léopard. Donc, le Ngo est représenté. Donc, ce mot Ngo est aussi bien relatif à la ou et aussi bien relatif aussi à l'aigle. Car dans la palette de Narmer, c'est-à-dire un document que l'on a retrouvé en ancienne Égypte qui retrace l'épopée du pharaon Narmer, Nimrod donc dans la Bible, donc le premier pharaon qui fut puissant sur la terre d'après les écrits bibliques. On retrouve que dans cette palette-là, il y a aussi un aigle. Or, l'aigle, ça renvoie à les langues africaines Nkolo, Nkulu, ce qui est en haut, ce qui est au-dessus. Et dans les langues africaines, on verra que le nom de l'aigle, c'est souvent Ungwe, Ungu, Mungu. Hein? C'est la même racine qui revient souvent, Nungu. Hein? C'est la même racine qui va revenir. Eko, Ngongo, Ewango, Mpongo, Kombe. Ce sont les mêmes noms qui reviennent pour être le symbole de l'aigle. Donc ces mots, ces racines-là sont des racines qui sont liées à l'aigle et qui sont liées au léopard. Voilà pourquoi Dieu est appelé par exemple un Pungu. Parce qu'il est élevé au-dessus, Nkulu, Ntu. Ce sont des mots, des racines qui reviennent souvent pour la divinité, la royauté. Donc le léopard et l'aigle, voilà pourquoi dans l'ancienne Égypte, ces animaux étaient toujours représentés par les rois, par les prêtres. Par exemple, les prêtres avaient toujours des peaux de léopard. Et voilà pourquoi aussi les chefs coutumiers en Afrique, ou même les présidents, ou même les professeurs d'université, lorsqu'il y a graduation ou collation de grade, ils portent des toges avec des motifs de léopard. Ou les chefs coutumiers, ou les présidents, ils portent des tenues de léopard. Ça veut dire que c'est le haut sommet de l'initiation. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est rallié, et qu'on est un chasseur, qu'on a sa lance en main, sa lance qui représente un harpon qui est lié à Narmer, qui faisait partie de cette communauté de pêcheurs qui chassaient des poissons-chats géants, car il y avait des poissons-chats géants au niveau de la région des Grands Lacs, surtout au niveau du Katanga, et c'est au Katanga qu'on a retrouvé les plus vieilles traces de harpons au monde. Donc cette communauté-là qui est montée, qui a longé le Nil, car il y avait aussi beaucoup de lacs, hein. Il y avait un lac géant qu'on appelait le lac Congo, j'en ai déjà parlé, et le lac Tchad. Donc ces communautés-là ont construit des pirogues très tôt et ont longé les différentes rivières qu'il y avait et lacs qu'il y avait dans ces régions-là pour remonter le Nil petit à petit et aller à la conquête du nord. Donc ces premières populations-là étaient des chasseurs, mais aussi des éleveurs. Ils avaient une culture nomade et pastorale. Et c'est cette culture-là qui est montée vers le nord et qui a défié ceux qui étaient là avant eux, des populations toujours noires, quelques asiatiques, mais quelques-uns seulement, mais surtout des populations authentiquement noires. Il y a eu un clash, et ensuite il y a eu la paix, et ils ont formé le pays. Voilà pourquoi ils ont formé leur pays autour des valeurs pastorales et de l'agriculture, car les pasteurs amenaient les vaches, vous savez qu'avec la bouse de vache, on va fertiliser les sols, et ensuite on va pouvoir cultiver. Et voilà pourquoi très tôt, il y a le symbole de la houe qui est utilisé dans les documents historiques de l'Égypte, dans la première dynastie, pour montrer que le pays, la houe était le symbole de l'agriculture, le symbole de l'unification, de l'amour, car il fallait qu'il y ait la paix entre les deux royaumes. Voilà pourquoi on trouve cette houe comme symbole dans le nom de l'Égypte. Et voilà pourquoi cette houe est restée même jusque dans le royaume Congo. Où Congo, c'est la houe, c'est le même mot qui signifie amour qu'au Congo là. Rassembler l'arc, c'est les mêmes symboles en Égypte et en Afrique, donc les mêmes mots et la même prononciation, même car je l'ai dit, grâce à la méthode Kuma, l'Égypte se prononce en Congo en réalité, c'est-à-dire Kemet ou même Tameri, les deux se présentent Congo par rapport à la symbolique, par rapport même à la prononciation poétique du mot ou de l'identité. Nous avons parlé du renne, le renne qui est important dans la construction de l'individu, le nom de la personne. Donc tout cela nous ramène au fait à la panthère noire, car nous avions dit pour ne pas se perdre que nous allons nous focaliser sur la racine Ngo. Voilà pourquoi nous avons appelé l'ombre Kem Ngo. Kem c'est noir, Ngo c'est la panthère dans les langues africaines. Donc notre identité refoulée et cette identité de panthère noire que nous avons négligée, c'est un peu comme si nous avions une panthère noire que nous avions mis dans une cage et que nous étions en train d'affamer. Nous ne voulons pas nourrir cette panthère car le système nous a convaincu que noir c'est mauvais et que l'Afrique n'avait jamais eu d'histoire et les gens ont un problème de self-esteem, d'où nous avons parlé dans l'émission précédente du complexe du sphinx, c'est-à-dire cet animal, cette statue, cette figure majestueuse, extraordinaire, mais qui a un nez cassé. Et beaucoup de gens se voient comme ça dans la communauté noire ou africaine, car comme Michael Jackson, qui était une star hyper mondiale, hyper populaire, lorsqu'il a fait son premier album le plus vendu au monde, un thriller. Il avait, bien que je ne sais pas si c'était déjà passé au chez le, il avait déjà commencé à faire de la chirurgie esthétique à l'époque, mais il avait encore tous ses traits négroïdes, et cela n'a pas empêché de vendre, d'exploser les records. Mais étant donné qu'il était mal dans sa peau, étant donné qu'il avait ce complexe du sphinx, il est parti changer ce nez pour en avoir un autre, selon lui, meilleur. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si au moment du clip de Thriller, il avait déjà changé son nom, mais du moins, il ressemblait encore un peu plus à un Africain. La situation de Michael Jackson est très compliquée. On va pas faire son procès ici. Il avait une maladie qu'on appelle le vitiligo tout ce qui suit. Mais on remarque qu'il y avait ce problème de complexe du nez et de son entourage même. Il y a aussi eu cette révélation qu'au fait, on l'appelait gros nez. Ça avait joué sur son mental. Et j'aimerais aussi corriger quelque chose. C'est que la fois passée, on avait parlé du complexe du nez. Et j'avais cité Nicki Minaj. Ça, ce n'est pas confirmé. En fait, je voulais parler de Lil' Kim. Lil' Kim a confirmé, par exemple, qu'elle avait une opération du nez, qu'elle avait un problème par rapport à ça, et qu'elle voulait changer son apparence. Nicki Minaj, ce sont des rumeurs, alors on ne sait pas si c'est vrai, mais ce sont des rumeurs, mais il y en a qui disent qu'elle l'a aussi fait, mais il y a des rumeurs, il n'y a rien d'officiel. Donc, on peut se rendre compte que nous avons donc cette image du shadow que nous refoulons. Donc, le Kemgo, cette panthère noire que nous sommes, mais que nous refoulons. Car pourquoi on utilise encore cette image aussi de la panthère noire? C'est parce que dans l'ancienne Égypte, par exemple, sous Toutankhamon qui est le fils d'Akhenaton, nous avons parlé de lui dernièrement et nous avons montré les racines et les traces, les preuves de cette dynastie noire. Car les Égyptiens noirs, ce n'est pas simplement c'est des premières dynasties, mais même au-delà, jusqu'à la 18e, nous en avons parlé la fois passée. Et nous avons remarqué, on a découvert que dans le tombeau de Toutankhamon, il y a eu beaucoup, beaucoup de panthères. Donc ici, on va vraiment faire, on est un peu dans la psychologie, on est dans l'histoire, hein, dans le leadership, dans le management, on est un peu dans tout ça, hein, partager un peu l'histoire africaine, mais de manière pragmatique, scientifique, comment est-ce que ça peut être adapté à nos conditions actuelles, afin d'être un peu plus pédagogique, pas simplement faire de l'histoire pour l'histoire, mais de l'histoire pédagogique, de l'histoire pragmatique, de l'histoire qui peut servir à résoudre les problèmes qu'on a dans la communauté, dans la société même, pourquoi pas dans les familles, pour être plus précis et surtout personnel. Donc, dans le tombeau de Toutankhamon, c'est un pharaon noir, évidemment, de la 18e dynastie, qui a régné après que son père Akhenaton ait abandonné le pouvoir, ou peut-être même a été assassiné, car son père avait changé la religion égyptienne. Il voulait mettre le disque solaire Aton. Et on a dit à la fois passée que ça avait motivé Freud à écrire sur Moïse à propos de ça. Et quand son père est mort, Akhenaton, à Toutankhamon a pris le trône, mais il s'appelait d'abord Toutankhaton à sa naissance. Mais quand son père est mort et qu'il a pris le pouvoir, il s'est appelé Toutankhamon, c'est-à-dire parce qu'avant on adorait Amon et après les prêtres ont dit ah non, hein, quand ton père est mort, l'histoire de Aton c'est fini, hein, maintenant tu reviens à Amon. Donc son nom a changé de Toutankhaton à Toutankhamon. Donc dans son tombeau, il est mort plutôt jeune et dans son tombeau on a retrouvé beaucoup de panthères, beaucoup de léopards et beaucoup de panthères, c'est-à-dire de léopards qu'on a peints en noir, c'est-à-dire les statues qu'on a faites et on a peint en noir. Il y avait eu beaucoup de polémiques auprès des égyptologues. Est-ce que c'est réellement des panthères? Est-ce que noir? Est-ce que c'est des léopards? Il y a toute une polémique là-dessus. Eh bien, tout simplement, on sait que c'était les deux qui étaient utilisés dans l'iconographie égyptienne. Il y avait aussi bien les léopards que les panthères noires. Et la panthère noire aussi était très, très prisée. Car on a remarqué qu'on a retrouvé beaucoup d'artefacts ou de statues, par exemple de pharaons ou par exemple Toutankhamon, où il est au-dessus d'une panthère noire et il marche sur la panthère. Non pas pour l'écraser, mais pour montrer que son leadership était basé sur la panthère. Et voilà pourquoi on a beaucoup de prêtres qui portent des tuniques de léopard tachetées. C'est pour montrer que la symbolique du léopard n'a pas simplement commencé avec ne concerne pas simplement Narmer, mais elle concerne toute la royauté égyptienne. Aussi bien au niveau des prêtres, il y avait ce qu'on appelait les prêtres Sem, qui portaient toujours des peaux de léopard. Le roi lui-même, qui est déjà un roi prêtre, car il est religieux, était aussi dans la symbolique du léopard. Donc de Narmer et même avant Narmer, jusqu'au-dessus, on a cette symbolique du léopard. Et on a la symbolique du léopard noir, c'est-à-dire la panthère, qui aussi fait partie de l'iconographie égyptienne. Et la panthère noire accompagne aussi le défunt dans l'au-delà, car le chouette, l'ombre, le kemgo, que moi, comme j'aime l'appeler maintenant, accompagne aussi l'homme, parce que c'est ce qu'il est en réalité, accompagne l'être humain aussi dans l'au-delà. Donc, tant que nous ne faisons pas cette étude intérieure, cette introspection, et que nous ne regardons pas pour pouvoir savoir qui nous sommes en réalité, eh bien, nous aurons toujours des problèmes à ce niveau. Toujours en paraphrasant l'article pensée.fr sur l'ombre que nous appelons le Kemgo, la panthère noire donc, nous ne pouvons pas oublier quel type de dynamique constitue ce concept que nous appelons ombre. Nous retrouvons ici nos craintes, nos traumatismes du passé, les déceptions qui nous empoisonnent, les rêves que nous n'avons pas réalisés par indécision. Et je rappelle le mot indécision, la décision ici est liée au hack. Car quand nos pensées sont bonnes et que nos émotions sont bonnes, et bien nos décisions sont meilleures. Donc quand le hack et le bas ne sont déjà pas en bon terme, et bien notre décision, le hack, sera affectée et automatiquement notre ombre chouillette, la panthère noire, en sera complètement névrosée. Donc, je reprends. Nous ne pouvons pas oublier quel type de dynamique constitue ce concept que nous appelons ombre, donc le Kemgo. Nous retrouvons ici nos craintes, nos traumatismes du passé, les déceptions qui nous empoisonnent, les rêves que nous n'avons pas réalisés par indécision et qui se transforment en requins frustrés naviguant au sein de notre personnalité. Si nous les cachons, ces démons intérieurs deviennent plus féroces et si nous les passons sous silence, ils finiront par nous contrôler, projetant souvent sur les autres une image de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Nous continuons. L'ombre est plus destructrice, insidieuse et dangereuse lorsque nous la réprimons. C'est alors qu'elle se projette, laissant ainsi apparaître, selon Carl Jung, des troubles tels que la névrose ou la psychose dont nous avons parlé tout à l'heure. L'article finit ainsi. Par conséquent, nous ne pouvons pas oublier que notre croissance personnelle et notre bien-être psychologique dépendront toujours de notre capacité à mettre en lumière ces ombres, d'où la citation du début de l'émission. Cet acte de courage constituera le point de départ d'un délicat mais précieux travail tendant à nous guérir, à retrouver le calme et le bien-être. Je reprends. Par conséquent, nous ne pouvons pas oublier que notre croissance personnelle et notre bien-être psychologique dépendront toujours de notre capacité à mettre en lumière ces ombres, le Kemgo. Cet acte de courage constituera le point de départ d'un délicat mais précieux travail tendant à nous guérir, à retrouver le calme et le bien-être. Ce que nous avons dit ici, aussi récemment, c'est que nous ne sommes pas ici pour donner ce qu'on appelle des quick fix, c'est-à-dire des solutions miracles magiques qui vont changer la personne en un claquement de doigts, mais c'est un processus auquel nous devons nous adonner, auquel les communautés africaines doivent s'adonner afin de pouvoir guérir, car il y a un sérieux problème et tant que ce problème ne sera pas résolu, quoi que l'on se réfugie dans quelle que soit la religion, quel que soit le système économique, il y aura toujours cette névrose. Car pour conclure avec cette édition du changement des mentalités, nous avions dit que ça commençait par l'intellectuel qui influence le politique, qui influencera l'économique, qui influencera le social et même le religieux. Car nous aurons à parler aussi de certains thèmes toujours liés à l'Afrique afin de connaître les legs africains par rapport à certaines religions, à certains mouvements et à comprendre comment est-ce que l'Afrique a beaucoup donné et comment est-ce que des choses ont été effacées pour que cela ne soit pas connu. Car lorsque ces racines ne sont pas connues, quand même on irait se réfugier dans X, Y ou Z dite religion, tant qu'on ne connaît pas les racines, on ne comprendra pas le rôle politique que ces religions ont dans les sociétés africaines et comment cela joue contre eux. Quand on n'a pas la vérité, tant qu'on n'a pas le contexte de plus pourquoi, du comment de ces choses. Donc cela se transforme en une arme, donc je répète, ces religions donc se transforment en une arme politique contre nous parce qu'on ne connaît pas les tenants, les aboutissants et les racines du comment et du pourquoi du commencement de ces dites religions. Donc, évidemment ici, nous ne parlerons pas de foi des gens, mais nous parlerons de phénomènes historiques, de faits, d'artefacts pour nous amener vers la vérité, pour nous amener à illuminer au fait notre ombre. Et je terminerai encore avec cette citation de Carl Jung. On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Et vous connaissez la conscience, ce que c'est. C'est un pont qui est tracé entre le passé et l'avenir. Lorsqu'on a ce pont qui est tracé entre le passé et l'avenir, c'est là où on peut devenir réellement conscient. C'est là où ce Kemgo, où notre ombre peut réellement être restaurée et venir à la lumière et réellement être ce que nous devons être. Comme nous l'avons dit, cette partie sombre ne doit pas être confondue avec les notion d'immoralité qu'il y a dans l'être humain. Il y a des notions immorales, tabous, évidemment, qui doivent être complètement reconnues par la société comme étant mauvais. Mais le problème, c'est que dans le shadow, dans l'ombre, dans la panthère noire, on a vilifié, on a fait devenir cette panthère noire quelque chose de diabolique pour nous. C'est-à-dire qu'on a refoulé en nous la volonté de réussir. Vous refusez, refoulez en nous la volonté, l'image de soi, l'acceptation de soi. C'est du fait que même lorsque on devient au top de sa condition, de sa créativité. Eh bien, on se retrouve un peu comme Michael Jackson ou comme un sphinx. On est majestueux, on est grand, on est beau. Tout le monde vient autour de soi pour prendre des photos. Mais en réalité, on se perçoit nous-mêmes devant le miroir comme un sphinx qui a le nez cassé.